Tout feu, tout femme, le magazine des femmes, mais pas que, sur Couleur FM 97.1 avec Véronique et Valérie. Bonjour chers auditeurs, aujourd'hui dans Tout feu, tout femme, nous parlerons de la précarité de la femme, un sujet qui malheureusement laisse un goût amer, car on constate qu'il y a toujours plus de précarité pour les femmes, mais aussi pour les jeunes malheureusement. Pour débattre autour de cette thématique, nous recevons aujourd'hui...
Alors madame Danielle Mulin, qui est deuxième adjointe aux affaires sociales et aux personnes âgées à Bourgoin-Jallieu, et qui est également conseillère communautaire à la CAPI. Madame Danielle Coutulier, qui est bénévole au Secours Populaire à Bourgoin-Jallieu. Monsieur Bernard Bron, qui est délégué défenseur des droits en Orisère. Deux témoignages avec madame Cosette Gaget, qui est bénévole au Secours Populaire. Et puis Maya, qui est une bénéficiaire du Secours Populaire. Alors nous débattrons tout au long de cette émission, de cette thématique. Mais avant de donner la parole à nos invités, eh bien nous allons faire un petit état des lieux de la précarité en France pour les femmes, mais malheureusement aussi pour les jeunes.
Et oui Véronique, c'est important. L'Institut National de la Statistique et des Études économiques, l'INSEE, a publié le mercredi 29 janvier 2014 une étude sur le marché du travail en France portant sur ces 30 dernières années. Alors un bilan contrasté hein, qui comporte de réelles améliorations mais aussi malheureusement de profondes dégradations.
Et oui, la situation des jeunes se dégrade. En 1975, le taux de chômage des jeunes âgés entre 15 et 24 ans était de 7%. En 2012, il a atteint 24%, quand celui des 25 et 49 ans est de 9%. En l'espace de 40 ans, le taux de chômage des plus jeunes a presque quadruplé, une série de paliers à la hausse étant successivement franchis avec de courtes rémissions. Bien que la jeunesse soit l'une des priorités de tous les nouveaux gouvernements, la situation ne s'améliore pas et les jeunes, malgré toutes les mesures qui sont mises en œuvre, n'arrivent pas à trouver de travail et par conséquent à s'insérer dans notre société.
Et oui, mais les cadres sont mieux lotis que les ouvriers. Mais sur une longue période, ce sont les ouvriers non qualifiés qui ont payé le plus lourd tribut. Alors déjà de 10% en 1982, leur taux de chômage a doublé en 30 ans, doublé hein, pour atteindre 20,4% en 2012. Durant la période, le taux de chômage des cadres est resté relativement stable, passant elle de 3,2 à 3,7%. Alors il est clair qu'aujourd'hui, plus qu'hier encore, l'absence de qualification est un véritable frein à l'insertion professionnelle. Les diplômes, les formations qualifiantes demeurent des remparts contre la précarité et le chômage. Et il s'avère aussi que les femmes travaillent plus, mais malheureusement, elles sont davantage touchées par le sous-emploi.
Alors encore quelques chiffres. En 1975, 60% des femmes de 25 à 49 ans exerçaient une activité professionnelle. En 2012, le taux d'activité des femmes de cette tranche d'âge est de 80%. Alors on sait aussi que chez les femmes, c'est le temps partiel qui prédomine.
Et oui, oui. Et selon l'INSEE, toujours, la tertiarisation de l'économie, un progrès technique en soi ou organisationnel, qui s'accorderait mieux avec certains profils de compétences, un niveau d'éducation plus élevé pour les femmes, sont à l'origine de cette forte hausse.
Alors justement, en 1975, 16% des femmes travaillaient à temps partiel. En 2012, eh bien, elles sont 30% contre 7% pour les hommes. Parmi elles, une sur quatre souhaiterait travailler davantage, mais hélas, ne trouve pas l'emploi qui va avec. À noter que sur les 30 dernières années, le taux de chômage des femmes s'est sensiblement rapproché de celui des hommes. Il était de 2% pour les hommes et de 5% pour les femmes en 75. Il est en 2012 de 10% pour les femmes et de 9,7% pour les hommes. Et là, malheureusement, on arrive à l'égalité, mais c'est pas forcément une bonne idée.
Alors ainsi, le chômage fait aujourd'hui partie des domaines où l'égalité homme-femme est malheureusement pratiquement atteinte.
Les femmes sont donc un public plus fragile pour plusieurs raisons. La première reste la monoparentalité, le taux de divorce en constante augmentation qui rend la vie d'une femme beaucoup plus compliquée. Élever un ou plusieurs enfants lorsqu'on a un travail précaire met en exergue une montagne de soucis. Par exemple, comment obtenir un appartement, comment avoir un CDI, un garant, comment obtenir des aides n'est pas non plus facile. Il faut pouvoir rentrer dans tous les critères.
Et nous pourrions encore énumérer d'autres problèmes récurrents. Mais alors pour cela, nous avons choisi d'inviter aujourd'hui plusieurs personnes susceptibles de pouvoir répondre à un certain nombre de nos interrogations et nous l'espérons aussi aussi répondre à ces centaines de femmes qui, chaque jour, se battent pour boucler leur fin de mois, payer leurs factures, donner à manger à leurs enfants et rester en forme. Et puis, de celles qui sont de plus en plus nombreuses à dormir dans leur voiture, seules ou avec leurs enfants. Et malheureusement, il n'y a pas d'âge pour cette précarité. Faut-il le préciser ? Nous pouvons tous, un jour, malheureusement tous, ou un jour ou l'autre, basculer dans cette situation. Nous allons faire une petite pause musicale sur Couleur FM 97.1 dans l'émission Tout Feu Tout Femme, avant de faire réagir bien sûr nos invités sur ce que nous venons de dresser comme tableau de la situation. Alors, on a choisi d'écouter une chanson des Restos du Cœur que vous connaissez bien aujourd'hui. On n'a plus le droit d'avoir faim ni d'avoir froid.
On compte sur vous!
C'était la chanson des Restos du Cœur qui est malheureusement toujours d'actualité. Vous êtes sur Couleur FM dans l'émission Tout Feu, Tout Femme. Et aujourd'hui, nous parlons de la précarité des femmes avec Valérie Guivic, Daniel Mulin, Daniel Goutaudier et Monsieur Bron. Plus de témoignages avec Maya et puis Cosette qui nous rejoindront plus tard. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que chacun peut présenter l'action qu'il fait, Monsieur Bron? Vous êtes, comme on l'a dit tout à l'heure, vous êtes délégué.
Délégué du défenseur des droits.
Alors, en quoi ça consiste, puisque c'est un mot qui nous paraît barbare?
Donc, le défenseur des droits a été institué par la loi constitutionnelle de 2008 et mis en place par la loi organique de 2011. Donc, c'est une structure jeune. Donc, nous avons eu un défenseur des droits qui s'appelait M. Baudis, et comme chacun le sait, est décédé il n'y a pas très longtemps, était remplacé par M. Toubon, qui est maintenant défenseur des droits. Donc, je suis son délégué pour l'ensemble du Nord-Isère. Alors, en quoi ça consiste? J'ai été avant, pendant 10 ans, délégué du médiateur de la République. Donc, le défenseur des droits a intégré les missions du médiateur de la République. Il a intégré aussi les missions de la HALD, c'est-à-dire pour tout ce qui est discrimination. Il a intégré les missions du défenseur des enfants, pour tout ce qui touche le problème du droit des enfants. Et il a intégré aussi tout ce qui touche à la déontologie de sécurité. ce qui était avant la CNDS. Le plus gros, j'allais dire, de mon travail, le cœur de mon travail reste, bien sûr, tout ce qui touche à la mission des services publics, mais je reçois de plus en plus de gens qui ont des problèmes de discrimination, quelques personnes qui ont des problèmes liés aux droits des enfants, et quelques personnes qui ont des problèmes liés avec la sécurité.
Alors, quelles sont vos réactions par rapport à ce constat un petit peu triste que l'on a évoqué de la situation de la femme en France à aujourd'hui ?
Alors, je ne sais pas si je peux dire que je peux penser à quoi que ce soit. Le problème, c'est que j'ai des constats.
On en est tous là.
C'est-à-dire que ce que vous avez dit, moi, je le vis toutes les semaines parce que je fais une permanence tous les vendredis en Maison de justice et du droit à Villefontaine. Qui est un lieu aussi où il y a des juristes, où il y a des différentes fonctions qui permettent à des gens de venir s'informer sur différents aspects de la justice.
Vous pouvez rappeler l'adresse peut-être pour nos auditeurs.
C'est
qui
place du
11 besoin.
Novembre à Villefontaine.
À Villefontaine, voilà.
Oui, ce que je disais, c'est qu'effectivement, ce que vous dites là, c'est que je le constate à chacune de mes permanences avec des gens qui viennent me voir et qui me présentent leurs soucis. Leurs angoisses, leurs problèmes. Et ce qui recoupe la réalité de la femme aujourd'hui, c'est notamment le plus de dossiers que j'ai eu par rapport aux discriminations, c'est les dames enceintes qui travaillent dans les entreprises et qui, lorsqu'elles sont, qu'elles annoncent qu'elles sont enceintes, ça devient la catastrophe.
Ouais.
Donc la catastrophe, parce que très vite, elle se rend compte qu'elle n'est plus du tout intéressante. Et très vite, parce que quand elle doit retrouver son travail, c'est un peu compliqué. Donc j'ai eu 3 dossiers dernièrement où les femmes ont préféré, pas démissionner, mais
abandonner
leur fonction, quitter l'entreprise dans de bonnes conditions, parce que leur retour à l'entreprise leur semblait impossible. Donc les entreprises fonctionnent maintenant à flux tendu, avec des exigences très dures, très fortes, et une femme enceinte devient très gênante. Voilà. Donc ça, c'est peut-être le problème le plus difficile que j'ai pu rencontrer. Autrement, vis-à-vis des missions de service public, ce qui est très compliqué, c'est qu'on reçoit en maison de justice, mais particulièrement ce qui me concerne, des femmes qui vivent seules, donc sont très vite en difficulté. Difficultés matérielles, difficultés d'organisation, etc. Donc notamment, c'est très difficile. Une femme qui décide de divorcer, par exemple, aujourd'hui, eh bien, d'abord, il faut qu'elle se débarrasse de son mari, et vite. C'est-à-dire que dès que la CAF, par exemple, constate que le mari traîne encore à la maison, tous les avantages, les prestations familiales auxquelles on peut avoir droit. S'estompent très vite si on n'arrive pas à prouver que le mari n'est plus là. Donc c'est compliqué parce que la vie, c'est pas tout à fait ça. Donc surtout pour les dames étrangères qui ne conçoivent pas toujours les choses de la même manière, surtout les messieurs. Donc on commence à traîner, on laisse une résidence administrative. Sa résidence administrative, ça reste celle qu'on avait avant. Donc aux yeux de la CAF, ça marche pas. Et puis, il y a ce qu'on constate de plus en plus, les maris ont aussi des problèmes, c'est-à-dire que quand ils doivent payer des pensions alimentaires, ils sont souvent insolvables. Donc les femmes se retrouvent seules à gérer leur famille. Alors, souvent, il y a aussi des maris qui font tout pour être insolvables, hein, donc pour éviter de payer la pension alimentaire. C'est aussi une autre réalité. Donc c'est pas facile à accompagner ces personnes pour leur faire toucher du doigt la réalité de la situation, parce que nous, on est là pour accompagner les personnes lorsque l'administration fait un faux pas. Donc on est là pour dire oui, ben là, vous croyez pas que dans ce cas-là, particulièrement, etc. Là, il y a eu la loi était un petit peu pas tout à fait respectée. Donc est-ce que vous pourriez pas revenir là-dessus, etc. Donc on essaye de, au coup par coup, de voir comment accompagner, aider ces personnes à retrouver un chemin dans lequel elles vont pouvoir avancer de manière un peu plus sereine. Donc il y a cet aspect-là des choses. Bon, les maris viennent quelquefois encore dormir à la maison, alors c'est la catastrophe. Parce que si, en plus, quand la CAF a un doute, elle fait procéder à une enquête, de voisinage notamment, et que les voisins, ils n'ont pas forcément envie de faire plaisir à leurs voisins. Donc, surtout si c'est des étrangers, quelquefois c'est un peu compliqué. Donc, les voisins font toujours pas de cadeaux, souvent pas de cadeaux, et disent oui, monsieur, il est venu, oui, effectivement. Donc, dans ces cas-là, bing prestations familiales, la CAF décide que le mari, tout compte fait, il vit à la maison. Voilà. Donc j'ai plusieurs situations, pas mal de situations qui recoupent ce type de problème. J'ai rencontré dernièrement des femmes qui sont collaboratrices de leur mari pour une petite entreprise ou un commerce. Et là, c'est très compliqué parce que quand elles sont collaboratrices à temps plein. Et souvent avec très peu de salaire ou pas du tout. Et donc, il y a eu une loi à un moment donné qui donnait la possibilité aux femmes de verser des cotisations pour avoir une complémentaire, une retraite qui soit un peu plus étoffée. Sauf que il y a une autre loi qui est intervenue et qui fait que le mari, quand sa femme est à la retraite, c'est à lui de verser la somme à sa femme. Donc, c'est lui qui cotise. Donc, s'il a divorcé, la femme, plus rien. Donc, c'est compliqué parce que les femmes sont folles de rage et ne comprennent pas ce qui se passe. Et pourtant, la loi est là et on ne peut rien faire contre cette loi, si ce n'est la pointer du doigt et se dire qu'elle ferait peut-être la changer. Sachant que le défenseur des droits peut avoir un tout petit peu cette possibilité. C'est-à-dire qu'il y a une commission à Paris qui réfléchit sur les possibilités de réforme des lois, enfin des changements un petit peu des lois lorsqu'il y a des effets un petit peu pervers. Mais là, il y a des lobbies derrière qui sont très puissants et qui font que je crois que la femme ne sera pas prête de toucher l'argent qu'elle a. C'est pas elle qui l'a versé puisque c'est son mari, mais quand même,
elle pouvait
prétendre
pour,
elle a travaillé pour. Voilà. Quand le mari a des difficultés avec l'entreprise et qu'il fait faillite, par exemple, et qu'il a oublié depuis plusieurs années de payer ses impôts, eh bien la femme est solidaire de la dette fiscale. Donc j'ai pas mal de personnes qui viennent me voir, des dames, qui me disent « Mais qu'est-ce que je peux faire ?» pas grand-chose. Parce que effectivement, dans un couple, la femme est solidaire de la dette fiscale. Et que cette dette fiscale, elle doit s'en acquitter si son mari ne peut pas le faire. Alors ça crée des situations épouvantables. Voilà, donc au-delà de ça, il y a d'autres situations. Il y a le harcèlement asexuel au travail. J'en ai eu très peu de dossiers, je dois reconnaître. J'ai plus de dossiers de harcèlement moral pour lesquels je ne peux rien faire parce qu'il n'y a pas de discrimination. J'interviens lorsqu'il y a discrimination. Et le défenseur des droits ne peut intervenir que lorsque certains critères sont présents dans le problème que les gens peuvent rencontrer. Et les critères, je vais les citer rapidement. Il y a l'origine, le sexe, l'état de grossesse ou la maternité, l'état de santé, le handicap, l'âge, l'orientation sexuelle, la situation de famille, l'apparence physique, l'activité syndicale ou des convictions religieuses ou personnelles.
Bien, on vous remercie pour toutes ces précisions juridiques. Alors maintenant, on va tomber dans le vif du sujet peut-être avec Madame Danielle Mulin, puisque vous, une fois que toutes les personnes ont eu toutes ces difficultés, malheureusement, on les retrouve souvent au CCAS. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter déjà votre fonction au sein de la mairie de Bourgoin-Jallieu? Pourquoi avoir choisi de vous occuper de cette délégation-là, puisque quand on est élu, on a plusieurs choix. Et quel genre de cas rencontrez-vous au sein de votre structure?
Alors, je me représente, Danielle Mulin, et donc vice-présidente du CCAS à Bourgoin-Jallieu. Pourquoi j'ai choisi cette fonction? Si on me connaît, je suis depuis très longtemps dans le social et le milieu associatif. Donc ça ne pouvait être que ça. Alors, par contre, vous avez donné des chiffres, en effet, qui sont très éloquents, et je pourrais vous en donner des plus précis, si on veut, sur Bourgoin, précisément. Alors, c'est des chiffres qui viennent de Compass, qui est un observatoire destiné aux collectivités, et notamment à Bourgoin-Jallieu. Et on relève en effet un gros effet pervers de la précarité et de la fragilité des ménages. 18% de personnes vivent sous le seuil de pauvreté, soit 4800 personnes qui ont moins de 977 euros par mois pour vivre. Globalement, le taux de pauvreté sur Bourgoin est à 18%. Il est supérieur à celui de la France, qui est à 14. Sur ces 4800 personnes vivant à Bourgoin en dessous du seuil de pauvreté, 36% sont des familles monoparentales, 14% des personnes seules, 6% des couples sans enfants et 15% sont des couples parentaux. Les familles monoparentales sur Bourgoin sont environ 1400. Il y a 2000 personnes pauvres qui vivent au sein d'un couple parental, c'est-à-dire les parents, souvent, ou amis, et elles sont hébergées. Il y a, par contre, 850 personnes qui vivent seules et souvent à l'extérieur. On retrouve aussi 20% du taux de pauvreté chez les moins de 30 ans, et c'est ce qui nous inquiète le plus. Cette population vit dans des ménages de plus de 75 ans, c'est souvent les grands-parents qui s'occupent des petits-enfants. Alors au total, fin 2013, 1520 ménages bénéficiaient des minima sociaux, c'est-à-dire RSA Socle ou AAH, contre 1090 ménages il y a 3 ans. En 5 ans, le nombre de ménages bénéficiaires des minima a augmenté de 39%. Alors, ce que je peux dire, c'est que donc le CCAS, on a régulièrement des commissions d'aide facultative, vous savez comment ça se passe. On instruit les dossiers et on essaye d'attribuer au moins les aides alimentaires. Là, je fais en sorte qu'il n'y ait pas de refus dans ce domaine-là. Par contre, il y a donc des aides d'urgence autres où on peut un peu négocier parce qu'il faut réserver, malgré nos restrictions, ces dépenses pour l'aide alimentaire. C'est quand même quelque chose d'important. Voilà. Est-ce que vous voulez que je vous parle des lieux de vie pour ces personnes? Alors, on parlait évidemment de la précarité des femmes, notamment des femmes victimes de violences. Je vous rappelle le numéro qu'il ne faut pas oublier, c'est 3919 ou 3919, qui est donc à la destination, enfin disons, qui est à l'écoute, soit des personnes elles-mêmes victimes de toute violence conjugale, sexuelle, mariage forcé, mutilation et violence au travail, soit de leur entourage et des professionnels concernés. C'est important. Par contre, il faut surtout bien faire attention, c'est que ce n'est pas un numéro d'urgence. Dans le cas d'urgence, c'est le 17 ou le 18. Il n'y a pas d'autre solution. Si on est témoin de quelque chose d'affreux, il faut appeler. Alors, par contre, sur Bourgoin, on a quand même des structures qui accueillent ces personnes victimes de violences. En l'occurrence, c'est l'ALPA. L'ALPA, c'est ex-Ars 38, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui se trouve donc avenue des Alpes et qui dispose d'un accueil de jour pour ces femmes victimes de violences. C'est un lieu qui est trop fréquenté et pourtant il est très important pour elles, c'est sûr. Par contre, cet accueil est donc ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 17h30. Il a une surface suffisante, elles peuvent s'y poser, s'y reposer, se restaurer. Il y a même un espace sanitaire et une laverie, parce qu'elles viennent souvent avec des enfants en bas âge. Alors elles sont accueillies et écoutées par des professionnels du social. Par contre, il faut, si vous voulez, prévoir avec elles la suite et surtout qu'elles aient la force d'aller porter plainte, ce qui n'est pas toujours le cas, parce que à 17h30, on les remet dehors. Et malheureusement, vous voyez ce que je veux dire, c'est dramatique. Alors, dans le Nord-Isère, parce que vous m'aviez posé cette question, on dispose de 9 appartements d'urgence pour les femmes victimes de violences, et ils sont bien sûr répartis, diffus dans la ville et même à l'extérieur, mais bien sûr on ne donnera pas les adresses
pour ces messieurs qui voudraient s'y rendre,
n'est-ce pas? Vous avez tout compris. Voilà, alors il faut savoir que ce lieu, les appartements d'urgence sont que pour 3 mois, donc il faut absolument un suivi social avec un travailleur social avec ces personnes pour les amener à autre chose et à un logement social.
Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une pause musicale. On va demander à Monsieur Bron qu'il nous présente la pause qu'il avait choisie. Et puis ensuite, on donnera la parole à Madame Goutaudier.
J'ai choisi une pause musicale qui est un morceau de musique d'Alcaz. C'est un groupe qui est peu connu dans la région, mais qui commence à être connu quand même malgré tout dans la région plus large, Rhône-Alpes, même un peu sur l'ensemble du territoire. Et je présente une chanson qui s'appelle « L'humanité ». L'humanité, parce que c'est vrai que l'humanité, aujourd'hui, on la voit souffrante, on la voit en difficulté, on la voit avec ses travers, ses coups durs. Et puis, quelquefois, ça vaut le coup de la regarder avec un œil un peu plus positif. Et notamment, la conclusion de cette chanson, c'est « L'humanité, c'est beau comme un dimanche ».
D'accord, on devrait faire la paix, par nous deux dans la maison. Toi et moi, revoir le décor et la vie que l'on rêvait. Vivre à la folie, la liberté, pas la prison. Croirons-nous d'abord, c'est ce qui nous échappait, jusqu'à en perdre la raison. Aussi, regarder nos torts, c'est faire un pas pour de vrai. Oser ce grain de folie, aller dévorer l'horizon. L'humanité, c'est toi, c'est moi, c'est nous. L'humanité, tandis que le monde flanche. L'humanité, c'est nous que l'on dénoue. L'humanité, c'est beau comme un dimanche.
Ok, c'est d'accord, mais après qu'est-ce qu'on fait?
Et si on ouvrait la porte et le cœur de notre maison, avec les copains d'abord et face à tout ce que l'on souhaitait, chanter cette douce folie. L'humanité, pas la prison. Une ville en port, on verra bien ce que ça fait. L'utopie, c'est encore la plus belle des raisons d'avancer plus encore, nous inventer d'autres couplets.
Cette idée folle, celle de traverser l'horizon. L'humanité, c'est toi, c'est moi, c'est nous. L'humanité, tandis que le monde flanche. L'humanité, c'est nous que l'on dénoue. L'humanité, c'est beau comme un dimanche. La 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 la.
Ensemble tout au bord de nouveaux mondes magnifiques, aujourd'hui à portée de main.
Partager toujours et encore nos rêves et nos suppliques.
C'est coup de folie, c'est coup de cœur, c'est coup de poing.
La 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 la. L'humanité,
c'était Alcaz, choisi par Monsieur Bron. Vous êtes sur Couleur FM 97.1 dans votre magazine Tout Feu, Tout Femme, en compagnie de Valérie. Alors, nous abordons le thème de la précarité des femmes, grand thème.
Oui, Véronique, donc une nouvelle question pour vous, messieurs, dames. Quelles sont les associations qui prennent le relais et se substituent aux organismes publics? Vous pouvez peut-être nous répondre, Madame Gouttedier. Je crois que vous êtes à même de le faire.
Oui, nous avons... Bon, bien sûr, je fais partie du Secours Populaire de Bourgoin-Jallieu. Donc, je fais partie des permanences d'accueil et de solidarité. Et donc, nous organisons beaucoup de... Nous accueillons beaucoup de familles, surtout monoparentales. Les difficultés rencontrées par les plus défavorisés ou les personnes qui connaissent une période compliquée dans leur existence sont multiples. Il y a le besoin alimentaire, l'accès aux soins de santé de base, l'endettement et le logement. Donc je voudrais parler quand même de l'accès aux soins du santé de base, puisqu'il existe un service PASS qui a été créé par la ville de Bourgoin-Jallieu à l'hôpital Pierre-Houdeau. Donc ces services PASS, il y a une assistante sociale ainsi que médecin qui accueille les personnes qui n'ont pas de secours médicaux, quels qu'ils soient, soit l'AME, soit la Sécurité sociale. Donc, ils les accueillent gratuitement. Donc, c'est un grand pas parce que ces personnes sont reçues par un médecin et ensuite, ils ont tous les examens gratuits.
Alors, est-ce qu'il y a une permanence? Est-ce qu'il faut prendre rendez-vous? Comment
ça se passe? Il faut prendre rendez-vous et c'est tous les mardis matins au service PASS de Pierre-Houdeau. Je mets l'accent là-dessus parce que beaucoup de personnes ne sont pas au courant. Donc, quand ils viennent, bon, ben, ils sont souvent de santé très précaire. Et non, nous, des fois, on les emmène justement à ce service pour leur faire connaître. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est important d'en parler aujourd'hui pour les personnes qui se trouveraient dans cette situation.
Et on est là pour ça, hein, justement, voilà. Dans cette émission, pour donner les bons conseils, les bons numéros.
Et c'est vraiment un plus, parce que si vous n'avez pas la santé, vous ne faites pas le reste, quoi.
Voilà. Et souvent, quand les gens vivent dans la rue, ou dans des squats, ou même dans des appartements mal chauffés, bon, c'est là où ils sont le plus vulnérables au niveau santé. Et donc, c'est pour ça que, pour moi, c'est très important qu'on ait ouvert ce service à Pierre Audeau.
Une très belle initiative qu'il faut souligner dans ces
voilà.
cas-là.
Voilà, c'est pas nous qui l'avons. C'est le CCAS. Hein,
oui, c'est pour ça que je la souligne.
Voilà. Donc, moi, j'en parle parce que c'est vraiment important. D'autre part, eh bien, nous recevons évidemment des gens pour l'endettement. Donc là, nous avons aussi... nous travaillons avec d'autres associations. Nous avons le SOS Famille d'Emmaüs. Nous avons aussi le Secours catholique. En fait, nous travaillons avec toutes les associations humanitaires. Lorsque nous avons un problème, on se réunit tous et on parle du problème, de ce problème. Par exemple, l'année dernière, on devait fermer la répit à l'île d'Abo. Et donc, nous nous sommes tous réunis. Et tous, nous avons signé, envoyé un courrier au préfet pour demander que cet établissement reste ouvert parce qu'il logeait 100 personnes. Je ne sais pas si vous voyez, 100 personnes à la rue fin mars. Donc, on s'est réunis en janvier 2014. Et là, nous avons réussi, c'est-à-dire que maintenant, la répit, enfin, le Saint-Hubert à l'île d'Abo, est ouvert toute l'année parce que nous avons développé une grande solidarité entre nous.
L'union fait la force. Hein.
Et chaque fois que nous avons, parce que chaque association, bien sûr, se gère différemment, mais quand nous avons un problème, nous nous réunissons, un problème de genre, et là, on arrive toujours à trouver une solution et on essaye de se faire entendre. Mais quand toute une association se plaint, on n'écoute pas trop, mais quand toutes les associations écrivent et, ou co-signent la même lettre... Là, c'est différent. On ne voit plus les choses de la même façon.
Et vous intervenez, alors on le précise, pas qu'à Bourgoin-Jallieu, vous intervenez aussi sur le secteur de l'île d'Abo, sur d'autres secteurs.
Voilà, alors je vais vous donner juste des chiffres rapidement, en tout, dans nos secteurs. Donc, nous avons 609 familles, parce que nous sommes depuis juillet 2014. Hein, on a arrêté les comptes en juillet 2014. Donc, nous avons 609 familles, qui représentent 1798 personnes, dont 131 enfants de moins de 3 ans, 778 enfants de 3 à 18 ans et 89 adultes, dont la plupart sont monoparentales. Et aujourd'hui, il y a toujours en plus une population en grande souffrance qui n'ose pas venir nous voir, qui n'ose pas frapper à la porte pour nous dire on a besoin, parce qu'ils ont une petite fierté. Et pour eux, c'est toujours difficile... Voilà, jusqu'à présent, nous avions un petit local, donc les personnes venaient, mais tout le monde les voyait, donc c'était gênant. Il n'y avait pas de confidentialité. Or là, nous attendons, donc nous avons un local un peu plus grand, mais je pense que la mairie ne va pas tarder de nous attribuer, ils nous l'ont promis, un local mieux adapté, parce que nous avons des enfants, des personnes handicapées, nous avons des personnes âgées aussi qui viennent nous voir. Et là, actuellement, nous avons un escalier en bois qui est très difficile à monter pour ces personnes.
Alors majoritairement, vous accueillez plus d'hommes, plus de femmes ?
Ben, ce sont surtout les femmes qui viennent. Les hommes n'osent pas trop venir. Hein. Mais nous avons aussi des hommes, enfin, qui ont des enfants, qui élèvent tout seuls leurs enfants aussi. Ça arrive.
Et pour tous ceux qui n'osent pas franchir le pas, qu'est-ce que vous pourriez leur dire est-ce qu'il y a un endroit, un lieu qui serait peut-être un peu plus confidentiel
discret.
Discret, c'est comme ceux qui n'osent pas aller au Resto du Cœur parce qu'effectivement, on a notre fierté et on n'a pas envie de nous rencontrer dans ces lieux-là.
Oui, alors nous avons le 73 rue de la Libération, le dernier local un peu difficile à monter, mais là, il y a des bureaux. À Champfleury, nous n'avons qu'une seule pièce. Donc là, c'est la confidentialité, c'est plutôt difficile. Donc pour le moment, on accueille 73 rue de la Libération, en attendant que la mairie nous attribue un nouveau local qui est à l'étude en ce moment. Voilà.
Bien, je vous remercie. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une deuxième pause musicale. Cette fois-ci, elle a été choisie par Madame Mulin. Et puis ensuite, on accueillera Cosette et puis Maya qui vont nous apporter leur témoignage.
Alors, moi, j'ai choisi le langage des fleurs. Que vous dire de plus? Je crois que quand on parle des femmes, c'est mieux les fleurs. Et puis, je pense que ça donne un sourire pour celles qui en ont besoin.
Je me souviens, on avait des projets pour la terre, pour les hommes comme la nature. Faire tomber les barrières, les murs, les vieux parapets d'Arthur.
Fallait voir, imagine notre espoir. On laissait nos cœurs au pouvoir des fleurs. Jasmin,
jasmin,
lila. Pour changer tout ça,
changer le monde, changer les choses avec des bouquets de roses, changer les femmes, changer les hommes avec des géraniums.
Je me souviens, on avait des chansons, des paroles, comme des pétales et des corolles,
qu'écoutaient en rêvant. Petite fille autour le disque fort.
Le parfum, imagine le parfum. L'Éden, le jardin, c'était pour demain.
Mais demain, c'est pareil. Le même désiré, là tout au fond des cœurs. Changer en douceur.
Changer les âmes, changer.
Que voici les couleurs vives.
Et que même si l'amour est parti, ce n'est que partie remise
par les couleurs, les odeurs et les parfums.
Changer le vieux monde pour faire un jardin. Tu verras,
tu verras,
tu verras,
tu verras
le pouvoir des fleurs.
Changer les âmes, changer les cœurs avec des bouquets de fleurs. La guerre au vent, l'amour devant, grâce à des fleurs de chant. Changer les âmes, changer les cœurs avec des bouquets de fleurs. La guerre au vent, l'amour devant, grâce à des fleurs de chant.
C'est le titre choisi par Daniel Mulin. C'était, ben, vous aurez reconnu, Les Enfoirés. Vous êtes toujours sur Couleur FM 97.1 dans votre émission Tout Feu, Tout Femme. Et nous parlons aujourd'hui de la précarité des femmes. Alors, avec nous, deux invités qui vont nous parler de leur situation. Alors, tout d'abord, à côté de moi, j'ai Cosette, qui est bénévole au Secours Populaire. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi cet engagement depuis 2 ans au Secours Populaire ?
Alors, cet engagement depuis 2 ans au Secours Populaire, notamment pour les valeurs que le Secours Populaire défend, donc c'est-à-dire agir contre la pauvreté, l'exclusion en France et dans le monde, notamment, et surtout le fait que c'est une association qui réunit des personnes de toutes conditions, toutes origines. Donc vraiment, le problème d'exclusion, il est vraiment mis en avant et il y a aucune exclusion, aucune discrimination.
Alors, pourquoi choisir effectivement le Secours Populaire plutôt que les Restos du Cœur, le Secours Catholique dont vous venez de l'expliquer? Alors, pourquoi une jeune femme s'engage comme ça et quelle est votre vision maintenant des choses quand on entend beaucoup de pauvreté, parler de pauvreté, de précarité? Bon, c'est avec nos mots, avec nos images, avec ce que les médias nous renvoient. Et quand on est vraiment dans le cœur de l'action, ça se passe comment? Parce que c'est dur, il faut pas non plus, faut avoir de l'empathie sans trop en avoir. Comment ça se passe?
C'est exactement ça, donc il faut savoir prendre du recul, des distances. Pour ma part, je trouve important de s'engager dans la solidarité, surtout en étant jeune, car c'est les jeunes qui vont faire vivre la solidarité, quoi qu'il arrive. Aussi le fait voilà, d'apporter à ces personnes qui sont dans le besoin, serait-ce que, voilà, au niveau alimentaire, au niveau aussi, on organise des sorties, on organise des journées, voir des sourires, voir des yeux qui brillent. Voilà, juste le fait de leur apporter quelque chose. Après, sur la vision des choses, effectivement, quand on s'engage dans des missions de solidarité comme ça, on voit la vie différemment. Et nos petits problèmes du quotidien, qui nous paraissent de gros tracas, deviennent vite de petits détails. Et du coup, on y attache beaucoup moins d'importance, car on voit qu'il y a beaucoup pire ailleurs.
Est-ce que vous auriez une belle expérience à...
Oui. Alors, moi, je m'occupe surtout de tout ce qui est... Enfin, ce qui concerne les enfants. Voilà. Donc là, on est en train de lancer un mouvement qui s'appelle Copains du Monde. Voilà, qui va être un club d'enfants qui vont faire eux-mêmes la solidarité. Voilà, donc on dit que c'est la solidarité par et pour les enfants. Et en fait, avec les enfants, c'est toujours un sourire, une joie... Voilà, quoi qu'on fasse, quelles que soient les actions, qu'elles soient petites, qu'elles soient grandes, que ce soit une sortie, une journée des vacances à organiser, que ce soit n'importe quoi, on a toujours un sourire, un remerciement, voilà, serait-ce qu'un dessin, des grands merci, quand est-ce que tu reviens, quand est-ce qu'on refait une journée. Voilà, pour moi, ça, c'est vraiment un très beau souvenir.
Ils sont dans l'innocence et puis eux, ils n'ont pas de valeur. Peut-être
exactement.
Que nous, on a.
C'est exactement ça.
Alors, Maya, vous êtes, vous, bénéficiaire du Secours Populaire. Alors, expliquez-nous comment vous avez un jour passé la porte du Secours Populaire. Est-ce que c'est difficile? Comment êtes-vous venue à demander de l'aide?
Bonjour, c'est 2013, notre appel porte Secours Populaire. C'est avec nous tous les jours, c'est gentil, c'est très gentil, personne travaille là-bas, c'est bénévole, tout le monde. Moi, les enfants partis vacances avec Secours Populaire, c'est très très gentil, parce qu'on donne manger, ses vêtements, c'est tout. Avec nous, accompagnés pour les cartes de jour, moi, cartes de jour données, c'est prêter argent, c'est don argent, c'est Secours Populaire, 1300 euros, c'est très gentil. Merci, Secours Populaire, c'est très très gentil.
Alors, le Secours Populaire va être une aide ponctuelle. Est-ce que vous savez, à terme, qu'est-ce qui va se passer pour vous à un moment donné? Est-ce que vous allez pouvoir... alors, je ne sais pas si vous êtes régularisé, dans quelle situation vous êtes, mais quel est l'avenir pour vous? Vous ne pourrez pas tout le temps être aidé par le Secours Populaire. Est-ce que vous avez une idée, une issue de ce qui pourrait se passer?
Juste Secours Populaire, c'est... Non.
Alors, Madame Goudaudier, vous intervenez pour le Secours Populaire. Alors, quelle est la suite qui pourrait être donnée pour Maya? Parce que là, c'est une aide ponctuelle. Comment ça se passe?
Alors, pour l'instant, nous l'avons aidée pour ses papiers, bien sûr, à la préfecture. Maintenant, elle a la carte de séjour provisoire, parce que temporaire, qui est pour 1 an. Là, on va lui renouveler. Après, elle aura celle de 10 ans. Et à partir de là, nous allons ouvrir un nouveau service qui concerne l'emploi. Donc, je n'en ai pas parlé parce que c'est encore un peu trop récent. Et nous avons fait, j'ai fait une étude de marché puisque c'était mon métier dans la publicité. Et là, je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup de petits artisans, des personnes seules, qui n'avaient pas le temps de recruter. Donc, je leur ai fait remplir un questionnaire avec des personnes de l'école Gambetta, deux petites stagiaires qui ont fait un excellent travail. Et on s'est aperçu que finalement, là, il y avait quelque chose de bon pour les personnes que nous accueillons, parce qu'ils ont souvent besoin de gens provisoirement, peut-être 6 mois, 1 an. Ce qui fait que, comme ils ont le droit de travailler pendant 1 an, ça leur permet d'avoir un travail pendant 6 mois ou peut-être même 8 mois.
Super idée.
Voilà. Donc c'est, et tous sont d'accord pour embaucher, à condition bien sûr que la personne soit du métier. Parce que c'est pas parce qu'elles viennent de pays étrangers qu'elles ne connaissent pas la plomberie, ni l'électricité, ni rien. Donc ce sont des professionnels qui souvent sont obligés de partir de chez eux parce qu'il y a la guerre et tout, et pour protéger leur famille. Et nous, le Secours Populaire, on s'arrête pas à l'aide alimentaire. On va plus loin.
Le Secours Populaire a pu aussi peut-être vous aider en ce qui concerne le logement, parce que j'imagine que lorsque vous êtes arrivé ici en France, bien sûr, vous n'aviez pas de logement. On connaît aujourd'hui la difficulté, hein, je dis ça parce qu'on rebondira sur ça tout à l'heure probablement, on connaît la difficulté pour avoir des logements aujourd'hui. Est-ce qu'elle a pu, enfin, est-ce que vous pouvez bénéficier d'un logement pour vivre décemment ?
Elle est inscrite pour la... Alors, au départ, nous l'avons fait de l'association Laripi, donc qui tient le Saint-Hubert à l'île d'Abo. Nous avons pu le mettre la famille à l'abri et nous continuons bien sûr dans la démarche. Hein, nous continuons. Maintenant qu'elle a le droit de travailler, nous allons aller voir les services sociaux. D'ailleurs, Madame Mulin pourrait le dire. Et à ce moment-là, elles sont inscrites en vue d'avoir un appartement. Donc nous essayons de leur trouver. On n'essaie pas, on se bat pour leur trouver l'appartement et on essaye en même temps de leur trouver un emploi. Parce que aider, oui. Mais nourrir les gens, c'est bien. Il y a un vieux proverbe chinois qui dit « Tu donnes à manger un poisson un jour, il mangera une journée. Mais si tu lui apprends à pêcher, il mangera toute sa vie. » Donc, nous, en partant de ce principe, on aide les gens dans l'au-delà, de façon à ce qu'après, ils soient complètement autonomes, qui viennent nous voir, mais juste pour nous dire bonjour, c'est tout.
Alors justement, on va enchaîner directement avec une pause musicale que vous avez choisie. Oui. Alors, dites-nous ce que vous avez choisi.
Parce que ça parle des enfants. Et ça donne un espoir dans l'avenir, à mon avis.
Si c'est vrai qu'il y a des gens qui s'aiment, si les enfants sont tous les mêmes, alors il faudra leur dire. C'est comme des parfums qu'on respire. Regard facile à faire, un peu plus d'amour que d'ordinaire. Puisqu'on vit dans la même lumière, même s'il y a des couleurs qui
mots qu'on reçoit, c'est comme des parfums qu'on respire. Il faudra leur dire, facile à faire.
C'était donc Il faudra leur dire. Vous êtes sur Couleur FM dans votre magazine Tout Faux, Tout Femme et nous sommes en compagnie de plusieurs invités. Nous débattons de la précarité de la femme. Alors, nous avons malheureusement, après tout ce que vous nous avez dit, le triste constat que le pauvre devient encore plus pauvre et que malheureusement, un ouvrier moyen se paupérise de plus en plus, même s'il travaille et qu'il est de plus en plus difficile de joindre les deux bouts. Alors après, on va se poser toutes les questions, mais que peut-on faire? Que peut-on faire quand on est un élu dans une commune? Que peut-on faire quand on est le délégué des défenseurs des droits? Quelles sont les différentes aides auxquelles les personnes peuvent prétendre pour essayer de sortir de cette précarité qui devient une spirale infernale? Alors, Madame Mulin.
Alors, je vais profiter un petit peu de cette antenne pour annoncer le premier forum de l'emploi que notre nouvelle municipalité vient de mettre en place, il va avoir lieu le 24 février. C'est justement à destination des jeunes, de ceux qui sont loin de l'emploi. Je pense que ça va être une réussite parce qu'il faut qu'on fasse passer ce message, qu'ils viennent. Ce sera à la salle polyvalente. Donc voilà, venez parce que peut-être que vous allez avoir des entreprises, des entrepreneurs en face de vous. Il faut se vendre et vous allez peut-être trouver une place.
Et pour le logement, quelles sont les situations quand on est un travailleur précaire ou même pas précaire, puisqu'il y en a qui sont en CDI, qui ne trouvent pas de logement non plus?
Alors ça, c'est vrai que c'est très difficile. Vous savez que malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas comment dire, c'est la compétence de la CAPI. Mais il n'empêche que nous, au service donc du logement du CCAS, on essaye de revoir cette politique du logement parce que on peut pas avoir un regard sur 22 communes à la fois. On a besoin d'avoir un ancrage sur place. Mais c'est vrai que c'est une grosse inquiétude pour nous. Maintenant, dans le privé, c'est un peu différent. C'est sûr que ça paraît, encore que vous savez que j'ai fait ce métier pendant longtemps, je ne sais pas si vous le saviez, mais moi je vais toujours loger des personnes, même en intérim. Donc il s'agit d'avoir du bon sens. Moi je dis tout simplement du bon sens.
Quand même quelque chose qui me paraît un peu contradictoire dans cette société, c'est que on demande aux gens d'être capables de prendre des travaux que moi je considère comme précaires, puisqu'ils sont à temps partiel ou à temps non choisi, je dirais, et en même temps ces mêmes gens qui acceptent d'aller travailler dans des temps non choisis ne peuvent pas ni avoir de logement ni de crédit parce qu'ils sont dits précaires. Donc là il y a quand même une contradiction que peut-être les lois, enfin à qui appartient cette compétence justement de régler de ce type de problème, parce qu'il y a quand même une incohérence entre les choses.
Alors vous parlez de crédit, il est important de ne pas les mettre dans l'embarras encore plus. Alors qu'il y ait une...
Ou un garant, par exemple.
Voilà, d'accord, mais les crédits, il faut faire... Alors, bon, moi, je vous assure que j'ai fait ça pendant longtemps, je n'ai pas exigé de garant. Voilà, ça dépend aussi des... Il y a des gens qui ouvrent le parapluie pour se garantir. Quoique, celui qui ne veut pas... qui n'a pas les possibilités de payer, il ne peut pas payer, et puis c'est tout, point, hein, de toute façon. Mais bon, je pense
quand
là
on
que...
Mais quand on travaille, théoriquement, il y a quand même la possibilité, parce que vous avez des gens qui gagnent au SMIC, qui sont dans des voitures, qui dorment dans des voitures, et qui pourtant, avec 1200 euros, pourraient quand même payer un loyer.
Là, je pense quand même qu'ils doivent pouvoir, mais c'est justement 977 euros, là, inférieur au seuil de pauvreté, c'est là où on a des grosses difficultés.
Alors, monsieur Bon, vous avez peut-être des idées à nous donner? Quelles sont les aides auxquelles pourraient prétendre des femmes, des hommes qui sont en grande précarité?
Alors, des aides, c'est difficile parce qu'on n'a pas la...
Mais pas des aides forcément financières, des accompagnements.
Des accompagnements. Par exemple, ce que je peux dire, c'est qu'à la Maison de justice et du droit à Villefontaine, on trouve des choses qui existent à Bourgoin, qui est l'accès au droit, hein, par des juristes, et ça c'est très important parce que c'est un accès gratuit. Il y a aussi une association qui défend les victimes, hein, donc c'est quelque chose d'important, avec une psychologue et une juriste, et qui, lorsqu'il y a un problème, un coup dur, ces personnes-là peuvent accompagner les personnes en difficulté qui ont besoin d'aller au tribunal, peut les accompagner jusque dans les procès. Donc, peut les accompagner dans un entretien avec un avocat ou avec un magistrat, de façon à pouvoir être dans de bonnes conditions. Alors, ce qui est important pour moi, qui suis là pour essayer de voir comment accompagner des gens, et surtout de voir comment la loi peut être un peu favorable, pas bousculé, parce que malheureusement c'est pas bien possible,
pas, oui.
Mais favorable pour que les gens puissent avoir des droits, bah c'est très très intéressant de pouvoir travailler avec une équipe qui a des compétences diverses et avec laquelle on se serre les coudes. Voilà, je crois que ce qui est intéressant, ce que j'ai senti aujourd'hui, c'est qu'on parle de la même chose. Je retrouve le problème des gens qui viennent me voir, qui dorment dans les voitures, qui n'ont pas assez d'argent pour pouvoir un logement. J'ai reçu, c'est pas une dame, c'est un monsieur, vendredi dernier, qui n'a pas de logement, qui pourrait toucher le RSA, mais personne ne veut lui signer une domiciliation.
Alors, mais là, c'est important, la domiciliation. Oui. Vous savez que c'est une obligation des collectivités. Donc là, moi, j'en signe régulièrement. Donc, ils peuvent être domiciliés sur... sur Bourgoin, donc au CCAS, n'est-ce pas? Voilà, donc ça c'est important. Au point de vue logement, on a aussi les résidences sociales. Donc, mais sûr, il faut un... C'est un travail avec les travailleurs sociaux, et c'est sûr que c'est pas évident.
Ouais, et là encore une fois, c'est ce que moi, pour avoir travaillé sur le sujet, on se rend compte aussi qu'il faut rentrer dans des cases. Ouais. Hein, on est dans une grande administration, une grande nébuleuse, et si on n'entre pas dans certaines cases, et si on n'est pas ou très pauvre ou très riche, celui qui est entre deux, celui dont on voulait parler justement tout à l'heure, l'ouvrier qui travaille à temps complet, mais qui travaille dans une certaine précarité parce qu'il n'en a pas d'autres possibilités, et bien celui-ci, il n'est dans aucune case. Alors c'est ça, à mon avis, plus qu'une aide. Les gens n'attendent pas forcément de l'argent, ils attendent, je pense,
un soutien
et une structure logique et quelque chose de cohérent dans leur recherche de logement, etc. Et là, où est-ce que ces gens-là peuvent quelle porte peuvent-ils frapper?
Par exemple, pour ce monsieur dont je vous ai parlé tout à l'heure, j'ai écrit à la mairie, je ne vous dirai pas laquelle, qui est la plus proche de là où il était résidé avant, pour pouvoir éventuellement les rendre plus favorables à l'idée de signer une domiciliation. Parce que le problème, c'est que ce monsieur, qui ne peut pas percevoir le RSA, il a vécu dans sa voiture jusqu'à l'hiver, là il dort dans un garage, donc il est tout seul. Je dirais pas heureusement,
mais presque,
c'est
oui.
Presque. Donc c'est un monsieur qui est venu me voir, qui est plein
de bonne volonté, d'envie
de s'en sortir. Il a un ordinateur quand même malgré tout qui marche un peu avec des difficultés, mais il essaie d'explorer les possibilités de travail sur la France entière actuellement. Donc il se dit, je pense que je vais arriver à trouver, mais en attendant, bah, je suis coincé.
Et c'est justement toutes ces personnes qui ont la volonté de travailler. Tout à l'heure, j'ai fait une interview avec un monsieur aussi qui a la volonté de travailler, mais qui ne peut pas avoir ne serait-ce qu'un permis de travail. Donc, on est dans des cercles complètement vicieux où des gens pleins de bonne volonté, on sait qu'il y a des fraudeurs, mais ce n'est pas la majorité des gens qui sont en difficulté. Il faut qu'on se le dise et qu'on se l'entende. Et malheureusement, ces gens-là, des fois, ne savent pas frapper à la bonne porte qui va débloquer peut-être leur situation difficile.
Là où je retrouve le plus de difficultés, mon angoisse est la plus forte, c'est les difficultés pour obtenir des titres de séjour avec la préfecture.
Bien sûr.
C'est très long, très très long.
Non, et 600 euros, on leur demande, par personne. C'est-à-dire que Maya, il a fallu qu'elle donne 600 euros pour elle et 600 euros pour son mari. Donc si on n'avait pas eu, on s'est arrangé avec SOS Famille pour lui prêter chacun 600 euros. Sinon, elle ne pouvait pas avoir ses papiers.
Et on dit France, terre d'asile.
Alors, j'ai des liens avec la préfecture, mais la préfecture me dit qu'ils sont dans des difficultés pour assurer leur boulot qui est compliqué. Parce qu'ils n'ont pas assez de monde pour pouvoir traiter tous les dossiers.
Alors malheureusement, on va arriver au terme de notre émission. Hein, donc on va devoir conclure. On sait que ça pourrait encore durer longtemps parce qu'on a tous plein de choses à dire, plein d'expériences malheureuses ou heureuses. Parce qu'il y a certainement des situations qui se terminent bien, nous l'espérons. Et puis quand on voit l'engagement que vous avez, Madame Goutaudier, ça fait chaud au cœur. Parce que tous ces gens-là, sans vous, ils ne seraient rien. Hein, donc ça, il est bon de le rappeler, puisque c'est un engagement bénévole que vous avez. Pareil pour tous les élus qui s'investissent et qui prennent la chose à bras-le-corps. Et on sait que c'est pas facile dans des périodes où les finances ne sont pas forcément au rendez-vous. Donc on doit vous rappeler sans arrêt qu'il n'y a pas d'argent et que c'est la crise. Donc merci à tous ceux qui s'engagent.
Je voudrais juste rajouter que nous avons des bénévoles qui se font caution, si vous voulez, qui signent des papiers d'hébergement pour permettre aux personnes de pouvoir entrer dans le système plus facilement. On ne les héberge pas, mais au moins on leur donne une boîte aux lettres, quoi, un endroit où ils pourront recevoir
domiciliation.
Voilà. Parce qu'après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec, avec Cosette à côté de moi, c'est que c'est vite compliqué. On peut être dans l'empathie, mais on ne peut pas non plus résoudre toute la misère du monde, malheureusement. On arrive donc au terme de cette émission. Il y a une dernière pause musicale qui a été choisie par Valérie. Mais avant, Monsieur Bron avait un texte, un livre, une lecture qu'il avait à nous conseiller.
Oui, c'est un livre qui est écrit par Monsieur Scolastique Mukasonga. Le titre, c'est « INZ ou les cafards ». C'était édité chez Folio. C'est l'histoire d'une jeune femme qui raconte sa vie de Tutsi au moment des problèmes qu'il y avait eu au Rwanda. Donc, tout ce qu'on a connu, tout ce qu'on a entendu par la suite. Alors, ce bouquin m'intéresse beaucoup parce qu'elle raconte les difficultés qu'elle a rencontrées à ce moment-là, avant le génocide, pendant le génocide et après le génocide. Donc, moi, ça m'intéresse parce que de l'autre côté de la frontière, en République démocratique du Congo, qui a été la victime parallèle de ce problème-là, où il y a eu depuis 20 ans 6 millions de morts, on ne le dit pas beaucoup, c'est considérable, où la femme vit des conditions épouvantables, c'est-à-dire que les femmes sont violées, sont souvent abattues dans des conditions absolument épouvantables. Et actuellement, donc, moi je travaille avec une association qui travaille avec le docteur Mukegwe, dont on a beaucoup parlé maintenant, et qui est là pour essayer de restaurer un petit peu avec les femmes leur identité, leur honneur et leur intégrité de femme.
Eh bien, je vous remercie. Et puis donc, dernière pause musicale que nous avons choisie, Valérie et moi, pour terminer cette émission. Donc c'est L'Amitié, la chanson des Enfoirés de 2008, qui malheureusement est encore et toujours d'actualité. Je vous remercie de nous avoir accompagnés durant cette heure et puis on espère que les choses vont peut-être évoluer ou au moins changer un petit peu, si tout le monde y met de la bonne volonté.
Beaucoup de mes amis sont venus des nuages, avec soleil et pluie comme simple bagage. Ils ont fait la saison des amitiés sincères,
la plus belle saison des quatre de la terre. Ils ont cette douceur des plus beaux paysages
et la fidélité des oiseaux de passage. Alors, ils viennent.
ce que la vie nous donne. Qu'il se peut qu'à mon tour je ne sois plus personne. S'il me reste un ami qui vraiment me comprenne, j'oublierai à la fois mes larmes et mes peines. Alors peut-être je viendrai chez toi chauffer
mon cœur à ton bois.
Femmes, le magazine des femmes, mais pas que, sur Couleur FM 97.1 avec Véronique
et Valérie.